BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi, soyez les bienvenus dans 60 minutes business, dans l'actualité de ce mardi. Alors, ce nouveau coup de pression du G7 sur les Russes, pourquoi ? Ne pas imposer un plafond, tout simplement, sur le prix du pétrole et du gaz que nous leur achetons, histoire, bien sûr, de les priver de grosses ressources financières. Le G7 a dit tout à l'heure, banco pour travailler sur cette nouvelle sanction. On va voir ça, bien sûr, dans un instant, en détail, sur BFM Business. Sinon, en France, c'est confirmé, le gouvernement va faire un geste pour les fonctionnaires, puisque le fameux point d'indice, qui était gelé depuis 5 ans, depuis 2017, le point d'indice va être dégelé à hauteur d'une hausse de 3,5%. Des fonctionnaires dont on sent bien qu'on les cajole désormais. Les années Covid sont passées par là. On verra ça avec un spécialiste du sujet dans quelques minutes. Et puis, la fin du véhicule thermique, en tout cas des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe. Vous savez qu'on a posé sur la table une date de 2035. Sauf que, et on va en parler aujourd'hui à Luxembourg, mais vous avez beaucoup de pays qui continuent de faire la résistance, qui considèrent que 2035 c'est bientôt finalement pour mener à bien cette vaste réforme. Attention, parce qu'on le verra tout à l'heure avec Raphaël Couder, on risque de traîner ce dossier qu'on croyait ficelé encore un certain temps. On verra ça bien sûr dans quelques minutes. Voilà en gros tout ce qu'on vous raconte, plus bien d'autres choses au cours de la première demi-heure. Midi et demi, 13h, vous le savez, BFM Business avec vous, on répond à vos questions, on vous donne la parole. Vous qui recrutez. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 13h. Donc, jusqu'au bout, le G7 s'est réuni en Allemagne et jusqu'au bout, il aura brainstormé pour essayer de faire monter encore un petit peu la pression sur la Russie, à tel point que le G7 nous a confirmé tout à l'heure, oui, qu'il était d'accord pour travailler sur cette possible sanction dont on parle de plus en plus, qui consiste à plafonner les prix du pétrole et du gaz russe. On va en parler quelques instants avec Jean-Pierre Favennec qui est avec nous par vidéo. Bonjour Monsieur Favennec, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants. Vous êtes consultant, spécialiste des questions énergétiques. La finalité, bonjour. On la comprend, priver Moscou d'argent. La méthode, on la comprend moins. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consisterait de plafonner les prix du pétrole et du gaz russe, Monsieur Favennec ?
Ben écoutez, vous posez une question extrêmement difficile. Bien entendu, vous avez rappelé que les ventes de gaz et de pétrole à la Russie, l'argent que retire la Russie de ces ventes de pétrole et de gaz, c'est absolument énorme. C'est des milliards de dollars chaque jour. Donc, l'intérêt pour les Européens, si on veut vraiment sanctionner la Russie, ça serait de plafonner le prix du pétrole et du gaz. Mais comment le faire et à quel niveau, c'est quelque chose qui serait totalement nouveau. Juste pour faire un tout petit peu d'histoire en quelques instants, le prix du pétrole était en fait fixé par les majors jusqu'en 70-71. Vous voyez que ça fait 50 ans ou plus. Ouais. Ensuite, c'est l'OPEP qui a fixé le prix du pétrole par des mécanismes qui lui étaient propres. Le prix du pétrole, on savait à quel prix on allait acheter. Mais tout ça remonte aux années 80, 70-80. Depuis 86, le prix du pétrole est fixé par le marché. Il monte, il baisse en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est assez compliqué. Je me demande quel mécanisme permettrait vraiment de faire ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut que non seulement les pays du G7, ceux qui approuvent le dispositif, le fassent appliquer, mais que d'autres pays susceptibles du coup d'acheter du pétrole russe l'appliquent. Ça, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, Monsieur Favennec. Hein.
Ouais. Bien sûr, et puis il faudrait que les producteurs eux-mêmes, parce qu'il y a les Russes, bien sûr, mais vous avez surtout les pays de l'OPEP, par exemple, qui vendent beaucoup de pétrole, qui avaient, je répète, il y a maintenant 50 ans, s'étaient mis d'accord pour fixer eux-mêmes les prix, donc il faudrait que les pays de l'OPEP s'entendent là-dessus. Peut-être d'ailleurs qu'il pourrait y avoir une espèce de tendance à le faire. Les pays de l'OPEP, le prix du pétrole actuellement tourne autour de 120 dollars le baril, ce qui est très élevé. Alors justement, est-ce que le prix du pétrole devrait être fixé à 60, à 80, à 100, à 120 ? Personne ne le sait. Ce que l'on sait, c'est que pour les pays de l'OPEP actuellement, pour les pays producteurs de pétrole d'une façon générale, les prix sont très très intéressants. Ça leur apporte des ressources tout à fait considérables. Oui. À l'inverse d'ailleurs, des pays consommateurs souffrent énormément. Je pense à beaucoup de pays africains qui n'ont pas de pétrole et qui sont obligés de l'importer. Mais on ne voit pas vraiment encore actuellement vers quel niveau de prix il faudrait se diriger. Et d'autre part, il faudrait que ce soit une négociation sans doute entre les pays, des grands pays comme les pays du G7, oui. Les pays grands paysés et puis les pays producteurs. Et donc, ça va être compliqué.
C'est-à-dire que ça marche un petit peu au niveau du G7, peut-être un petit peu moins au niveau du G20 finalement. Est-ce que vous dites donc proposition un petit peu aventureuse finalement de la part du G7 aujourd'hui clairement.
Écoutez, c'est quelque chose qui n'a jamais été imaginé depuis maintenant plus de 50 ans. Quand le prix du pétrole était c'était soit, je le répète, les grands opérateurs, soit l'OPEP. Maintenant, une grande négociation entre le G7 ou le G20, les pays producteurs de pétrole comme l'OPEP, ça me semble la solution, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une réponse rapide.
Oui, parce qu'on ne voit pas forcément les autres pays du groupe des BRICS, par exemple, suivre
oui,
les Européens.
On a bien vu récemment qu'il y a une réunion des BRICS avec la Russie qui soutiennent plus, enfin, qui ne sont pas en désaccord avec la Russie, on va dire, pour simplifier.
Oui, conclusion, donc la finalité, on la comprend. La méthode, effectivement, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. Merci beaucoup Jean-Pierre Favennec. Merci infiniment d'avoir été avec nous, consultant spécialiste des questions énergétiques avec nous sur BFM Business. Il est midi 5, voilà donc entre autres ce qu'il a ressorti des travaux du G7 qui vient de se tenir du côté de l'Allemagne. Et puis, on le disait, séquence diplomatique très intense, puisqu'après ce G7, bonjour Delphine Liu, c'est le sommet de l'OTAN qui va démarrer en Russie. Dans ce contexte qu'on connaît, évidemment, intensification des frappes russes contre l'Ukraine, Delphine.
Oui, son secrétaire général, Jens Stoltenberg, a prévenu que ce sera le sommet du tournant avec plusieurs projets, dont le plus spectaculaire, c'est la transformation de la force de réaction. Ce sont ces troupes à haut niveau de préparation qui sont capables d'intervenir n'importe où, n'importe quand. Elles vont passer de 40 000 à bien au-dessus de 300 000 hommes. Deuxième mesure à attendu, le renforcement des groupements tactiques qui sont basés dans la partie orientale de l'Alliance, tout près donc de la Russie. Ça va bien sûr de la Lituanie au nord à la Bulgarie au sud, en passant par la Pologne ou la Hongrie. Certains spécialistes s'interrogent tout de même sur l'état exact de préparation de ces troupes et sur les moyens financiers pour les mettre en branle.
Et puis il faut dire que c'est un remaniement qui a un coût quand même, Delphine, assez significatif.
Oui, un remaniement, effectivement, il va devoir investir davantage. Alors pour l'instant, les États membres se sont engagés à consacrer 2% de leur PIB à leurs dépenses de défense à l'horizon 2024. Pour l'instant, il y a seulement 9 pays sur 30 qui respectent cet engagement. La Grèce, les États-Unis, on va le voir normalement s'afficher bientôt, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie ou encore la Croatie et la Slovaquie. Voilà, 9 pays sur 30 pour l'instant consacrent 2% de leur PIB à leurs dépenses de défense. La France, on va le voir, elle est juste en dessous de cet objectif, 1,90. Italie, Allemagne, Espagne, on retrouve en tête de peloton le Luxembourg. En tout cas, cet objectif de 2% doit devenir un plancher et non plus un plafond.
Et puis un autre sujet dont on va parler aujourd'hui, notamment, enfin en tout cas autour de ce sommet de l'OTAN, c'est l'adhésion de la Finlande et de la Suède, qui est toujours suspendue au blocage de la Turquie apparemment, Delphine.
Oui, l'OTAN espère lever cet obstacle, l'unanimité est requise. Alors à Madrid, le président turc pourrait rencontrer Joe Biden, qui avait jusque-là soigneusement évité la question. Alors pour le faire plier, l'administration Biden pourrait lever les sanctions qui frappent la Turquie depuis qu'Ankara a acheté un système russe de défense anti-aérienne. En tout cas, on le voit, le président turc continue son petit jeu ambigu entre ses alliés occidentaux officiels et la Russie, au gré de ses petits calculs stratégiques.
Et bien voilà, l'ordre du jour, il est intense de ce sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui du côté de Madrid. Merci beaucoup Delphine. Delphine Liu avec nous sur BFM Business. Un petit mot encore concernant la Russie, puisque c'est Michelin qui nous l'a annoncé ce matin. Le groupe va céder toutes ses activités sur place d'ici la fin de cette année. Activités qui sont déjà à l'arrêt, cela dit, depuis le 15 mars et qui ne représentent que 2% des ventes du groupe Michelin dans son ensemble. Michelin qui emploie aujourd'hui à peu près un millier de personnes du côté de la Russie. Et puis en France, la cote d'alerte atteinte sur les finances publiques. Ça, vous savez, c'est ce que disait Bruno Le Maire hier. Alors que notre dette publique, on l'a appris, a dépassé il y a quelques mois les 2900 milliards d'euros. Cri d'alarme relayé ce matin sur BFM Business par François Asselin, le patron de la CPME. Écoutez son point de vue.
La cote d'alerte est dépassée à partir du moment où on n'arrive pas à stabiliser cette dette et on continue à la nourrir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Qu'on ait une dette à résorber, c'est un sujet, mais qu'on continue à nourrir cette dette qui devient abyssale, ça, c'est problématique. Parce qu'il y a une chose à laquelle on n'échappe pas, ni les uns ni les autres, c'est le principe de réalité. Et à un moment ou à un autre, la dette, elle se rembourse, quoi qu'en disent certains dans l'hémicycle, la dette, elle doit se rembourser. Donc, le pays est sorti très fragile de cette période de pandémie et de l'invasion de, l'Ukraine par la, Russie. Donc nous sommes un pays aujourd'hui fragilisé sur le champ économique. Il va falloir se ressaisir dans un contexte politique où, bien évidemment, il est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur des dépenses et beaucoup plus compliqué de prendre des décisions énergiques.
Et voilà, c'est pas nouveau. François Asselin, le patron de la CPME, qui était avec nous ce matin sur, sur BFM Business. Il est midi 10, on va reparler un petit peu de l'Europe. Parce qu'on va reparler aussi au niveau européen aujourd'hui du fameux paquet climat. Bonjour Raphaël Couder.
Bonjour Guillaume, bonjour.
Il y a des choses à régler, mais en tout cas hier, disons-le, salons-le, on s'est mis d'accord sur deux choses, Raphaël. Un, couper dans les dépenses d'énergie. Deux, doper les énergies renouvelables. Ça, on s'est mis d'accord là-dessus hier, Raphaël, déjà. Hein.
Oui, effectivement, les 27 se sont donc déjà prononcés sur deux des principaux volets du plan climat de la Commission européenne. Vous savez, c'est ce plan qui vise à réduire de 55% les émissions de carbone en Europe. Alors, premier accord sur un objectif contraignant de 40% de renouvelables dans le mix énergétique d'ici à 2030. Les États s'engagent notamment à atteindre près d'un tiers de renouvelables dans le secteur des transports, à développer les biocarburants, mais aussi à mettre en place des procédures d'autorisation accélérées sur les projets solaires ou éoliens. Ensuite, autre point d'accord sur la réduction de la consommation d'énergie. Les ministres reprennent là aussi l'objectif initial de la Commission. Ce sera 9% d'économie d'énergie d'ici à 2030 par rapport à 2020.
Ça, c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord, Raphaël. Cela dit, il y a encore un gros morceau qui concerne les ventes de véhicules thermiques en Europe. Ça, par contre, ça doit encore être négocié parce qu'il y a de grosses divergences de vues. Hein.
Effectivement, le Parlement européen a fini par approuver, on s'en souvient, la date butoir de 2035 et c'est désormais aux États d'adopter une position commune, sauf que 5 pays font de la résistance, l'Italie soutenue par la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie et la Slovéquie qui ont d'ores et déjà appelé à repousser l'échéance de 5 ans. L'interdiction n'aurait alors lieu qu'en 2040 et en attendant, ils proposent une réduction de 90% des émissions pour les voitures neuves. En 2035, les arguments italiens les voici. Rome estime qu'il faut laisser davantage de temps à l'industrie pour s'adapter, pour permettre d'augmenter le nombre de bornes de recharge ou encore de développer la production de batteries électriques notamment.
Ouais, il y a plusieurs pays qui poussent pour qu'on rallonge un peu cette date. Le problème, c'est que ce sont les arguments qui trouvent écho en Allemagne aujourd'hui, Raphaël, hein, clairement.
Oui, le pays s'est pourtant officiellement prononcé en faveur de cette interdiction en 2035, mais les positions en Allemagne, elles sont en fait beaucoup plus contrastées, notamment au sein du gouvernement. Le ministre des Finances, Christian Lindner, il y est lui clairement opposé. Son collègue des Transports, lui, a une position plus nuancée. Il plaide pour une ouverture technologique et l'utilisation de carburants synthétiques propres. De son côté, bien évidemment, la ministre de l'Environnement, elle se dit déterminée à faire respecter l'engagement allemand. Mais voilà, tout ça, ça fait craindre une abstention de l'Allemagne aujourd'hui. Abstention qui aurait de lourdes conséquences parce qu'elle offrirait une minorité de blocage aux 5 autres pays menés par l'Italie, ce qui remettrait donc en cause cette proposition.
Ouais, 2035, c'est la date qui a été affichée, qui a été votée par le Parlement. Est-ce que vraiment on ira au bout de cette date? Malheureusement, ça ne s'est pas encore réglé. Merci beaucoup Raphaël. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Alors, puisqu'on parle de climat, vous savez qu'un peu partout en Europe et en France notamment, on s'est résolu à redémarrer certaines centrales à charbon déjà pour passer l'hiver prochain. On a décidé par exemple de rouvrir la centrale de Saint-Avold. Pas de chance. Elle avait fermé le 31 mars dernier et tous les salariés sont partis dans le cadre d'un PSE. Et les faire revenir apparemment dans l'urgence, ça ne va pas être simple. On voit tout ça avec Caroline Morisseau.
Moins de 3 mois après le début du plan social, les salariés de la centrale à charbon de Saint-Avold sont appelés à la rescousse pour éviter une pénurie d'énergie. Il y a urgence pour que la centrale fonctionne cet hiver. Il est impératif qu'ils soient réembauchés dès juillet. Problème sur les quelques 90 salariés, il n'en reste qu'une dizaine. Tous les autres sont soit en congé de reclassement, soit en pré-retraite, voire en retraite. Or, il faut 70 salariés minimum pour faire tourner la centrale. Tout cela aurait pu être anticipé, regrette Jean-Pierre Damme, délégué. Pour lui, il aurait suffi que Gazelle Énergie, l'exploitante de Saint-Avold, repousse la fermeture de la centrale.
Ça fait des mois qu'on sait qu'on aura un problème d'approvisionnement d'électricité en France l'hiver prochain. Ça fait des mois qu'on sait aussi que la centrale Méchée va s'arrêter au mois de mars. Et on aurait dû, très certainement, demander à Gazelle, retardez un tout petit peu votre fermeture définitive, gardez vos salariés.
Faute de quoi, le ministère du Travail est aujourd'hui obligé de prendre des mesures dérogatoires. Gazelle Énergie va être autorisée à réembaucher ses anciens salariés en CDD. Le décret précise que tout se fera sur la base du volontariat. En cas de refus, l'entreprise sera autorisée à recruter à l'extérieur. Encore faut-il trouver les compétences dans des métiers en voie d'extinction.
Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Un petit mot de cinéma pour finir, on change complètement de registre. Top Gun, version 2022, le grand retour de Tom Cruise. Bah, ça se confirme, même si ce n'est pas une surprise, ça sera le gros carton du box-office en 2022. Déjà plus d'un milliard de dollars de recettes. Et apparemment, ce n'est pas fini. Sofiane Aklou.
Il n'aura fallu que 5 semaines d'exploitation à Top Gun pour générer ce milliard de dollars de recettes. La moitié de cette performance est réalisée en Amérique du Nord, mais le carton du film est mondial. En France aussi, la suite du long-métrage de 1986 est déjà le film le plus vu de l'année. 4 millions de spectateurs se sont passionnés pour les aventures du pilote de chasse incarné par Tom Cruise. Tom Cruise qui connaît son plus grand succès cinématographique grâce à ce nouvel opus après 40 ans de carrière. Même le dernier Mission Impossible a fait moins avec près de 800 millions de dollars de recettes au total. Prévu en 2020 au moment des confinements, la sortie du film avait été décalée plusieurs fois par Paramount pour lui laisser une chance de trouver son public. Une stratégie qui a payé puisque Top Gun Maverick est le deuxième film à atteindre le milliard de recettes depuis la pandémie, seulement dépassé par une autre franchise, Spider-Man No Way Home, et ses 1,9 milliard de dollars de recettes.
Eh oui, un milliard et c'est pas fini. Sofiane Aklouf avec nous sur BFM Business. Il est midi 16. On va retrouver notre Tom Cruise à nous sur les marchés. Imperturbable, indestructible. Antoine Larigauderie depuis le siège de Renext à La Défense. Bonjour mon cher Antoine. On est en hausse en ce moment sur les marchés. Malgré le marasme ambiant, ça prouve bien que les marchés naviguent un petit peu à vue en ce moment, Antoine. Hein. Comme Tom Cruise dans l'espace.
Oui, c'est un peu ça, mais du côté de la tendance de marché, il faut bien reconnaître que l'essentiel de ce rebond, on le doit à la Chine, parce que ce matin, il y a d'importantes levées de restrictions anti-Covid qui ont été annoncées pour libérer un petit peu l'économie, notamment les durées de quarantaine, etc., aussi bien en Chine qu'à Hong Kong. Et tout ça, ça s'est fait complètement retourner les indices et la tendance du côté des marchés asiatiques, et ça a poussé les indices vers le haut dès l'ouverture. Alors on voit que la tendance est un petit peu volatile, on voit que le rebond est assez peu suivi, notamment les volumes d'échanges qui sont très faibles. Du côté des, on dépasse à peine les 700 millions d'euros d'actions négociées à la mi-journée. Ça prouve vraiment que le marché est très très prudent. Mais le CAC, quand même, reconquiert les 6100 points, 6113. On est en hausse d'1,09%. On prend même une sacrée longueur d'avance sur les autres indices européens avec l'Eurostoxx 50 qui gagne 0,7% et plus 0,57% pour le DAX à Francfort. Mais alors à noter que tout ça coïncide aussi avec la publication de mauvais indicateurs en zone euro et notamment un plus bas historique pour la confiance des consommateurs du côté de l'Allemagne. Et ça s'est fait tendre les taux d'intérêt d'une dizaine de points de base. Regardez, on est à 2,17 sur la dette française 10 ans par rapport à la clôture d'hier. 1,64 pour la dette allemande. Faut pas oublier le pétrole aussi, qui est du côté des 113 dollars maintenant pour le Brent de mer du Nord. Donc, on sent que le marché effectivement navigue à vue entre toutes ces dynamiques un petit peu paradoxales et contradictoires.
Côté valeur, c'est là aussi tendance positive, mais marché écartelé. Ça doit faire mal, ça aussi, Antoine, quand même.
Ça fait mal puisque on a d'un côté les valeurs cycliques qui reprennent de la hauteur dans le sillage de ces bonnes nouvelles en provenance de Chine. Alors on a l'automobile Renault qui gagne 4,6% à 26,44. On a l'aéronautique avec Safran qui prend 3,2% à 95,84 €. L'énergie avec le pétrole, Total Energy gagne 2,4% à 51,20 €. Mais ces tensions sur les taux obligataires, encore une fois, ça capte complètement toutes les valeurs de croissance. Et on a la tech, Capgemini, moins 1,8% à 177,75 €. On a également Dassault Systèmes, moins 0,5% à 36,13 €, ou ST Micro, moins 0,2 à 31,78 €. Puis à noter Eurofin Scientifique qui recule d'1,18% à 77,22 €. Le secteur de la santé qui est mal orienté de manière générale, puisque la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Valneva qui recule de 4,6% à 12,17 €. Le CAC donc plus 1,06, 6111 points. Et du côté des devises, on a toujours un euro ferme face au dollar à 1,0589. À noter que le mieux sur les marchés permet aux crypto-monnaies de reprendre un tout petit peu de hauteur. Le Bitcoin, 21 000 $ et 1 200 pour l'Ether.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Lagordé depuis le siège de Euronext à la Défense pour BFM Business. À demain Antoine, même heure, même endroit.
À demain, avec plaisir.
Avec plaisir, bien évidemment. Midi 19, on marque une petite pause. Dans un instant, on parle coup de pouce sur BFM Business. Coup de pouce aux fonctionnaires, c'était confirmé ce matin, dégel du point d'indice. Et puis coup de pouce pour ces propriétaires qui s'alarment, et ils ont peut-être pas tort, d'une flambée de la taxe foncière cette année. Apparemment, il y a un geste du gouvernement dans les tuyaux. On verra ça avec Marie-Cœur de Roy, tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Voilà, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron, même s'il est arrivé sur le tard, cette proposition, mais ça a été confirmé ce matin. Oui, le gouvernement va bien dégeler le point d'indice qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires. Point d'indice qui va être augmenté de 3,5% au 1er juillet prochain. Il n'avait pas été dégelé depuis 2017. Ce point d'indice, et sur une grosse dizaine d'années, il progresse d'un peu plus d'un pour cent seulement. On va en parler avec François Eckel, qui est avec nous au téléphone. Bonjour monsieur Eckel, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour. Spécialiste des finances publiques, président du site FIPECO. Hausse de 3,5% qui, sans vraiment de surprise, ne contente pas vraiment les syndicats. Est-ce qu'ils ont raison de faire la moue encore à ce stade, les syndicats, pour vous, monsieur Eckel?
Alors d'abord, je dois dire que le dégel du point d'indice était nécessaire. Hein. D'abord, oui. Par souci d'équité entre les fonctionnaires et les salariés du privé dont les salaires augmentent. Et puis aussi parce que le gel du point d'indice, quasiment en fait depuis 2010, commençait à poser des problèmes de recrutement dans la fonction publique. Oui. Alors 3,5, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Ça peut paraître faible par rapport à l'inflation, qui est plutôt de l'ordre de 5 à 6% en ce moment. Mais il faut avoir en tête quand même deux choses. D'abord que ça coûte cher, une hausse du point d'indice, ça coûte 2 milliards pour chaque hausse de 1%, donc oui. 3,5% ça fait 7 milliards. Et puis ensuite, ce n'est pas le seul facteur de hausse des rémunérations dans la fonction publique. Les fonctionnaires voient leur salaire augmenter parce qu'ils montent dans la hiérarchie salariale, en général à l'ancienneté. Les salaires minimaux dans la fonction publique sont alignés sur le SMIC, donc ils augmentent aussi en même temps que le SMIC. Et puis, il y a des mesures catégorielles spécifiques à certains ministères, à certains corps, etc. Donc, au total, les salaires dans la fonction publique vont augmenter de assez nettement plus que 3,5% en réalité. D'après l'INSEE hier, qui a publié ses prévisions hier, en fait, il y aurait une hausse du pouvoir d'achat à la fois dans le secteur public et puis dans le secteur privé, légère, de l'ordre de 0,5% sur l'ensemble des années 2020, 2021, 2022.
Oui, mais vous avez vu, effectivement, justement, les syndicats appellent déjà à l'étape d'après une vraie négociation à laquelle le gouvernement apparemment ne ferme pas totalement la porte sur une hausse des revenus, des salaires dans la fonction publique. Est-ce que pour vous, c'est l'étape d'après par laquelle le gouvernement va devoir passer dans les prochains mois, finalement?
Alors, cette hausse de 3,5 du point de la fonction publique va profiter à tous les fonctionnaires, c'est le principe. Oui. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on revoit éventuellement les grilles salariales spécifiques à des corps ou à des ministères particuliers. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une démarche qui a déjà été engagée, en fait, qui avait déjà été engagée sous François Hollande, qui est poursuivie avec les mesures en faveur des personnels, des hôpitaux, en faveur des enseignants, des forces de l'ordre, et donc on va continuer dans ce sens-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas que la hausse du point, il y a aussi toutes ces mesures catégorielles.
Et il nous paraît très loin, le temps à la fois loin et pas si loin que ça, François Eckel, le temps où l'essentiel du discours portait sur les effectifs pléthoriques de la fonction publique. On a en tête, par exemple, en 2017, François Fillon qui proposait 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires sur 5 ans. Bon, Valérie Pécresse, en 2022, n'a proposé que, entre guillemets, 150 000 postes en moins. Emmanuel Macron n'a rien dit. On a vu des candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, plaider pour une hausse du nombre de fonctionnaires. On sent que les années Covid sont passées par là quand même, que le discours a un petit peu changé sur les fonctionnaires aujourd'hui.
Le discours a un peu changé, mais je pense... Alors, autant je pense qu'il fallait en effet dégeler la valeur du point, et que 3,5%, là, dans l'immédiat en tout cas, c'est raisonnable. Autant je pense qu'en revanche, il faudrait reprendre les efforts pour faire des économies sur la masse salariale à travers une réduction des effectifs. Il y a encore y a des endroits où on peut réduire les effectifs dans la fonction publique. Alors peut-être pas de 150 000 comme le proposait Valérie Pécresse, et certainement pas uniquement dans les fonctions, dans les postes d'administration, parce qu'en fait ils sont pas si nombreux que ça, mais il y a des gains de productivité à faire dans la fonction publique, oui, bien sûr.
Politiquement, on sent que ça va être difficile quand même. On sent qu'avec les années Covid, on a vu des Français qui sont redevenus ou qui ont été beaucoup plus attachés encore au service public. Finalement, c'est...
Oui, bien sûr que c'est politiquement difficile parce que le quoi qu'il en coûte était nécessaire. Mais le problème, c'est qu'il laisse croire aux Français qu'on peut dépenser des milliards d'euros sans aucune difficulté et qu'on peut s'endetter de manière illimitée. Ce qui n'est pas vrai, donc il va falloir redescendre sur Terre et de nouveau quand même réussir à faire quelques économies. Mais ça va être psychologiquement et politiquement, ça va en effet être très très difficile.
Bon, ça n'est pas pour aujourd'hui en tout cas suite à cette confirmation. Merci beaucoup François Eckhall, merci d'avoir été avec nous quelques instants. François Eckhall, spécialiste des finances publiques et président du site Fipeco avec nous. Sur BFM Business, midi 27, Marie-Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Alors coup de pouce pour les fonctionnaires et apparemment coup de pouce en préparation, d'après vos infos, pour les propriétaires qui s'alarment, et les chiffres montrent qu'ils n'ont pas tort, d'une flambée de la taxe foncière pour cette année.
Oui, c'est un juste retour des choses selon eux, parce qu'effectivement il y a eu un geste qu'on a bien expliqué hier à l'égard des locataires, c'est-à-dire qu'on a décidé de geler la hausse des loyers et d'avancer la hausse des APL de 3 mois, donc quelque part eux ils attendaient en échange un geste à leur égard, et effectivement le gouvernement, l'État a la main sur une partie de la taxe foncière. Alors je m'explique, ce qui peut bouger c'est les valeurs locatives. Oui. Et les valeurs locatives, c'est ce qui sert de base au calcul de la taxe foncière. Et ces valeurs locatives, elles suivent traditionnellement l'inflation. On les réévalue une fois par an en fonction de l'inflation. Mmh. Et donc, à l'image de ce qui a été fait pour les locataires, les propriétaires espéraient qu'on puisse caper la hausse des valeurs locatives qui sert donc de base de calcul à la taxe foncière. Et Bercy nous dit que clairement, oui, c'est un sujet, et que oui, le sujet sera abordé dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Et pour cause, comme je vous le disais, ça suit l'inflation. Avant, on était proche de zéro, on était à 0,2% en 2020, 2,4% en 2021. Ah oui. Et là, au dernier pointage, en mai, on était à 5,8%. Donc vous imaginez que si on ne fait rien, les valeurs locatives vont flamber, la taxe foncière avec. C'est pour ça qu'ils attendent évidemment des décisions importantes.
Cela dit, on sent bien que dans le calcul de la taxe foncière, ce qui pèse le plus, c'est les collectivités locales.
Quand oui, parce qu'en fait, la main, c'est pour l'État sur la base, mais derrière, le coefficient multiplicateur, il est entre les mains des départements et des municipalités. Et donc ça, c'est une problématique assez importante, d'autant qu'en plus, certains maires ont la main très très lourde, et d'ailleurs, pour la première fois de son histoire, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, porte plainte contre une ville, en l'occurrence Marseille, parce que Marseille a décidé cette année d'augmenter la taxe foncière de 16,5%.
Comment on assume ça politiquement quand on est maire de Marseille?
Quand les élections municipales viennent de passer.
Oui, d'accord. Mais
c'est toujours d'ailleurs fin d'un mandat municipal, les taxes foncières diminuent, début du suivant, et bam, ça explose. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment à Marseille, mais pas que Marseille. Là, en l'occurrence, l'UNPI porte plainte, mais vous avez d'autres villes où ça flambe. Tours, pareil, plus 15%, Strasbourg, plus 12,5%, ou encore Nantes, plus 11,5%. Là, ça va piquer très très sérieusement pour les propriétaires.
Ça va piquer pour les propriétaires qui disait hier, c'était le message, finalement nous aussi on souffre de l'inflation, voilà, les propriétaires souffrent de plus en plus de frais, des travaux, de rénovation énergétique.
Exactement.
Donc un geste pour eux. Donc ça serait pas dans le paquet pouvoir d'achat de cet été après.
Non, alors pour la taxe foncière, ça sera dans le cadre des discussions lors du projet de loi de finances pour 2023.
Ça nous ramène à la rentrée au débat parlementaire et budgétaire.
Ça va être
une très belle affaire. On va suivre ça de très très près. Merci beaucoup Marie.
Je vous en prie.
Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. Il est midi 29 avec tout ça. On marque une petite pause. Je vous donne les grands titres de l'actu dans un instant. Et puis BFM Business avec vous jusqu'à 13h. On répond à vos questions et on donne la parole évidemment à celles et ceux qui recrutent. À tout de suite. Il est midi et demi sur BFM Business. Dans l'actualité, ce sommet du G7 qui s'est achevé il y a quelques heures et qu'il a dit ce matin, oui, nous sommes d'accord pour discuter de cette sanction possible contre les Russes dont on parle de plus en plus, c'est la possibilité de plafonner les prix auxquels nous achetons à la Russie son gaz et son pétrole. Écoutez ce que nous disait tout à l'heure ce spécialiste de l'énergie, Jean-Pierre Favennec. Il nous dit, on comprend la finalité, priver la Russie de ressources financières, mais sur la méthode, ça va être beaucoup plus compliqué. Écoutez.
L'intérêt pour les Européens, si on veut vraiment sanctionner la Russie, ça serait de plafonner le prix du pétrole et du gaz. Mais comment le faire et à quel niveau, c'est quelque chose qui serait totalement nouveau. Juste pour faire un tout petit peu d'histoire en quelques instants, le prix du pétrole était en fait fixé par les majors jusqu'en 70-71. Vous voyez que ça fait 50 ans ou plus. Oui. Ensuite, c'est l'OPEP qui a fixé le prix du pétrole, bon, par des mécanismes qui lui étaient propres. Le prix du pétrole, on savait à quel prix on allait acheter. Mais tout ça remonte aux années 80, 70-80. Depuis 86, le prix du pétrole est fixé par le marché. Il monte, il baisse en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est assez compliqué. Je me demande quel mécanisme permettrait vraiment de faire ça.
Voilà, c'est la question que tout le monde s'oppose. Jean-Pierre Favennec, tout à l'heure avec nous, sur BFM Business. En France, c'est confirmé, le gouvernement fait un geste pour les quelques 5,7 millions de salariés de la fonction publique. Le fameux point d'indice qui était gelé depuis 2017 va être revalorisé de 3,5% au 1er juillet prochain, mesure dont la facture, précise Bercy, s'élève à 7,5 milliards d'euros, facture qui sera partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Au-delà de ça, faut-il augmenter les salaires autant que possible partout dans les entreprises ? Écoutez ce que disait le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, ce matin sur BFM TV. Il craint que ces augmentations en masse n'entretiennent la spirale inflationniste en France, finalement. Écoutez.
Il y a une sorte de schizophrénie. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si tout le monde augmente les salaires au niveau de l'inflation, on va nourrir l'inflation. Bien, je vous donne un exemple très simple. Quand vous êtes restaurateur, 70% de vos coûts, c'est les salaires. Mmh. Si vous augmentez le SMIC, augmenter pour moins de 6% cette année, ça veut dire augmenter le prix à la carte, enfin, ou au menu, de 6%. Et ça nourrit l'inflation.
Voilà l'avertissement de Geoffroy Roux de Bézieux ce matin sur BFM TV. Un petit mot encore d'entreprise. Michelin nous l'a annoncé ce matin, le groupe va céder toutes ses activités en Russie d'ici la fin de cette année. Activités qui sont déjà à l'arrêt depuis le 15 mars et qui ne représentent que 2% des ventes du groupe dans son ensemble. Michelin qui emploie aujourd'hui près d'un millier de personnes du côté de la Russie. La Bourse de Paris, elle est en hausse à l'heure actuelle. Le CAC 40 récupère 1,2%, 6122 points en ce moment pour l'indice parisien. Midi 34, BFM Business avec vous, c'est parti.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec notre expert du jour, c'est Xavier Dulin qui nous accompagne. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue pour une rafale de questions dans un instant avec vous sur des sujets très divers et très variés. Je rappelle juste les modalités comme toujours pour nous écrire. Nous faire des propositions d'embauche, nous poser des questions, hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, le site internet, bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, c'est totalement gratuit. Xavier, avocat associé, Barthélémy Avocat, des questions tous azimuts. Xavier, on va commencer avec vous, avec une question que nous pose Laurence sur bfmbusiness.com. L'employeur a-t-il le droit de licencier un salarié en longue maladie pour motif économique pendant la pandémie? Ça a été mon cas, demande Laurence, mais l'employeur avait-il le droit? Qu'est-ce qu'on répond, Xavier?
Beaucoup de salariés se sont posés cette question-là, oui. Parce qu'effectivement, la crise sanitaire a eu des incidences sur l'organisation de beaucoup de sociétés et des impacts sur la santé de certains salariés. Oui, oui, il est possible de licencier pour motif économique un salarié malade. C'était vrai pendant la crise sanitaire, c'est vrai après. Il y a deux conditions à cela. Hein, que le licenciement pour motif économique soit absolument réel, que ce ne soit pas un motif d'économie. Hein, vraiment, il faut avoir des difficultés économiques présentes ou imminentes dans la logique de sauvegarde. Donc, il y a une condition liée à ce motif énoncé, invoqué par l'entreprise. Ouais. Il faut qu'il y ait réellement un motif économique. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait absolument aucun lien avec le salarié intéressé, concerné par cette mesure de licenciement.
Alors, c'est ça que procédure. Voilà,
qu'il n'y ait pas une différence de traitement entre les salariés et surtout qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de l'état de santé. Ouais. Le licenciement doit être véritablement pour motif économique, pas pour un motif personnel déguisé. Donc la réponse est oui, sous réserve du respect de ces deux conditions, un motif réel, économique réel, et l'absence de lien avec l'état de santé du salarié. On va supprimer son poste.
Absolument.
Vraiment.
Il faut que la motivation économique soit documentée, en l'occurrence. Voilà pour Laurence, qui nous a posé une autre question. En étant licencié, on est toujours dans le même cas de figure. Ai-je le droit de consulter la médecine du travail alors que je ne fais plus partie de l'entreprise ? Ai-je le droit de la consulter pour faire face aux décisions du médecin contrôleur de la sécurité sociale concernant mon état de santé? C'est une question à tiroir, là.
Oui, c'est une question à tiroir qui paraît un peu curieuse à certains égards, puisque la personne a l'air de dire qu'elle est toujours en lien avec l'entreprise, mais qu'elle serait sortie des effectifs. Alors, en fait, consulter la médecine du travail si on n'a plus de lien avec l'entreprise, ce n'est pas possible. Dans son cas, on a l'air de comprendre qu'un lien serait tout de même maintenu du fait du préavis ou d'un système de congé de reclassement, ouais. De sécurisation professionnelle. Là, oui, il y aurait toujours un lien et on pourrait toujours voir le médecin du travail. On peut voir en tout état de cause le médecin du travail tant qu'on a un lien avec l'entreprise. Ouais. Mais ce n'est pas la recommandation que je lui ferai. S'il n'y a plus de lien, de toute façon, il ne pourra pas être possible de voir le médecin du travail. Mais dans son cas, si pendant une maladie, elle a fait l'objet d'un contrôle, je lui recommanderais plutôt de voir son médecin traitant pour ouais. démontrer la sincérité ouais. de son affection. Dire j'étais en maladie, j'ai fait l'objet d'un contrôle, ouais, on ouais. s'assure de ça. Allez revoir votre médecin traitant qui pourra confirmer votre état de santé. Ouais. C'est plutôt la recommandation que je lui ferai. Sinon, pour le médecin du travail, je vous dis, tant qu'on a un lien avec l'entreprise, c'est possible. Si on n'a plus de lien avec l'entreprise, le médecin du travail n'aura plus de rôle direct.
Voilà pour l'autre question que nous a posée Laurence sur bfmbusiness.com. Vincent, maintenant, qui nous dit « Un de mes employés a raté son rendez-vous en médecine du travail et l'organisme veut me facturer 120 euros en raison de cette absence. Est-ce légal ? » On a cru comprendre que oui. Vous nous le confirmez ?
Oui, là aussi, c'est Xavier, le prix oui. paraît tout de même un peu excessif. J'aimerais bien avoir des explications
sur
le
prix. On avait déjà eu des témoignages, je trouve que c'est 120 euros pour le
voilà,
coup.
Voilà, c'est hein. ça. Je trouve le prix excessif. Quand on connaît le prix d'une consultation chez un médecin généraliste, on dit 120 euros, il y a oui. une question. Donc là, on n'a peut-être pas toutes les informations requises. Sinon, effectivement, le principe, c'est que dès lors que c'est une consultation qui est assurée par les services de santé au travail, les frais sont en principe pris en charge par l'employeur. Si un rendez-vous est manqué, l'employeur peut dire... Si vraiment le salarié en question concerné par cette visite était en défaut, il pourrait à terme faire l'objet d'une sanction. Il oui. manquait un ou plusieurs rendez-vous dans notre hypothèse. Il pourrait y avoir une sanction qui ne serait pas pécuniaire. Et on ne pourrait pas lui demander de prendre en charge les frais en question. Oui. Donc les frais restent à la charge de l'employeur, de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Est-ce que le salarié pourrait être sanctionné s'il manque un peu trop souvent ou ne serait-ce qu'une fois sans un motif valable un rendez-vous ? Oui, sanction, mais qui ne pourrait pas être une oui. sanction en argent.
Voilà, ça passe une fois, quoi. On va dire ça voilà. de cette façon. Kena qui nous demande, toujours sur bfmbusiness.com, est-ce que mon employeur a le droit d'imposer 4 semaines de congés payés ? Elle ne nous précise pas si c'est l'été ou pas, mais est-ce que l'employeur peut, dans l'année, imposer 4 semaines de congés payés ?
Oui, alors c'est possible du fait de l'employeur, que les congés comme ça soient organisés et imposés, c'est ouais. possible effectivement, sous réserve d'un certain nombre de conditions, oui. qui sont liées notamment à des conditions d'information des salariés, des conditions aussi de respect de délai pour la fixation de ces congés. Pour faire court, 2 mois en amont, avec des possibilités de modification au dernier moment, si on peut dire 1 mois avant la date de fixation des congés. Il faut respecter ouais. aussi l'ordre, si vous voulez, des départs en congé. Il peut y avoir une fermeture d'entreprise, c'est souvent le cas en été, pendant 3 ou 4 semaines. Ouais. Donc la réponse est oui, sous réserve tout de même d'un respect d'un certain nombre de conditions de forme, on va dire, hein, délai, information.
Ouais.
Et puis aussi, là, comme toujours en droit du travail, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de différence de traitement. Hein, il n'y en a pas certains qui imposent 4 semaines et d'autres pas, oui. Ou de mesures de discrimination, hein, encore une fois, parce que certaines catégories seraient évidemment. Défavorisées par rapport à d'autres.
Évidemment.
Donc la réponse est plutôt oui, avec
mais sous
prudence
condition.
Et sous condition.
Mais sous condition, voilà. Question de Sarah, j'ai quitté Paris pendant mon congé maternité, mais sans le dire à mon employeur. Qu'est-ce que je risque ?
En principe, rien, puisque l'employeur ne contrôle pas le lieu ouais. de la maternité, si l'on peut dire. En droit du travail, pas de question majeure, à mon sens. Il ne faut pas rendre impossible le retour. Mais je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Il peut y avoir une question en droit de la sécurité sociale,
ouais.
parce qu'il peut y avoir un contrôle, effectivement, de la couverture. Et donc là, il faut normalement... que l'intéressé, encore une fois, l'expression que je retiens, c'est la personne concernée qui, il faudra qu'elle informe normalement les organismes de sécurité sociale, pour oui. le dire rapidement, dont elle dépend, pour dire quel est son lieu de résidence principale, lieu de résidence secondaire, pour que sa couverture ne présente pas de difficultés. Couverture sociale ne présente pas de oui. difficultés. Donc droit du travail, non, droit de la sécurité sociale, il faut des informations paraissent nécessaires.
Bien, dernière petite question de Yaël qui nous a écrit également sur bfmbusiness.com. Je souhaite externaliser certaines fonctions de mon entreprise, c'est un patron, et notamment côté développeur, puis-je encourager mes salariés à créer leur auto-entreprise pour faire appel à eux par la suite ?
le schéma paraît gagnant-gagnant. Hein. On dit, voilà, oui, vous allez avoir mais... plus d'autonomie, oui. vous allez faire des affaires, vous allez peut-être gagner plus d'argent. Oui. Et moi, en fait, j'aurai moins de contraintes puisque j'aurai externalisé l'activité.
Alors, il dit encourager, il dit pas obligé, voilà. il dit encourager. Hein.
Alors, on peut l'encourager, il faut que tout ça reste licite. Il y a oui. au moins deux conditions, très très rapidement. Il faut que techniquement, si on décide de sortir un salarié qui deviendrait un indépendant ou créerait sa société, ça pourrait être le statut d'auto-entrepreneur ou vraiment il décide s'il a de plus grandes ambitions de créer une entreprise plus importante avec peut-être même elle-même des effectifs. Il faudrait vraiment qu'il y ait un apport de compétences, si vous voulez, que la demande, ensuite la relation, si elle est maintenue entre l'entreprise et celui qui était avant un salarié, il faudrait vraiment démontrer que techniquement on ne fait pas exactement la même chose que ce qu'on faisait en interne. Ouais. Hein, il y a un apport technique, une contribution de prestataire de service. L'autre règle importante, l'autre condition à respecter, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un contournement des règles de droit de la sécurité sociale et de droit du travail. Contournement pour que les personnes en fait bénéficient moins de droits, hein, du moindre protection, ça ne doit pas être l'objectif recherché. L'objectif doit être un objectif technique, donc le projet doit être sincère techniquement, encore une fois. Et puis, ça ne doit pas être non plus motivé par le souhait de payer moins de cotisations sociales, bien évidemment. Donc, on évite le travail dissimulé, on évite de contourner les droits, les règles de recouvrement des cotisations sociales. Si on a un projet sincère, oui, techniquement, et ça permettrait aux intéressés d'avoir plus d'autonomie, c'est vrai, peut-être de gagner demain plus d'argent.
C'est la notion d'encourager, le patron qui encourage, voilà, qui est un petit peu pernicieux. Voilà,
ça a été fait, en fait, je vous le dis franchement, ça a été fait de nombreuses fois.
Oui.
Ce que vont contrôler l'inspection du travail, pour le dire là aussi très rapidement, et les contrôleurs du SAF, c'est ça, c'est la sincérité du projet.
Voilà.
Est-ce que c'est pas un montage? Est-ce qu'il n'y a pas de tricherie? Voilà. S'il n'y a pas de tricherie, le projet peut tenir.
Eh ben, écoutez,
intéressant.
Voilà la réponse à la question d'y aller. Voilà la réponse à ces questions. Merci beaucoup, Xavier. Merci de passer nous voir pour cette grande rafale de questions diverses et variées. On sait que vous en êtes friands. Vous continuez à nous envoyer vos questions, évidemment. Et on continue d'y répondre. Xavier Dulin, avocat associé, Barthélémy, avocat avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Xavier. À très vite.
Merci
à vous. Avec plaisir dans 60 minutes business. Midi 43, on marque une petite pause et on recrute dans un instant. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 45, c'est l'heure de recruter, comme tous les jours sur BFM Business. Bah, notre premier recruteur est avec nous par vidéo interposée, voilà, par le truchement des ondes, comme on dit. David Bernard est avec nous. Bonjour David, bienvenue, bonjour. Directeur général d'Assess First. Bah, comment on fait dans ces cas-là? Bah, on fait le buzz, on fait le pitch en quelques secondes d'Assess First. Qu'est-ce qu'on fait chez vous, David? Racontez-nous.
Alors, Assess First, c'est très simple. En fait, on est une société de la HR Tech, donc spécialisée dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif. C'est-à-dire que très concrètement, on a développé une solution qui va permettre à nos clients de recruter eh bien, sur la base du potentiel. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux critères comme les écoles par lesquelles les personnes sont passées, leurs diplômes ou encore les expériences précédentes. On va se centrer véritablement sur qui sont les individus, c'est-à-dire leur personnalité, leur motivation ou encore leur capacité à raisonner. Et à partir de ça, bah, on peut prédire leur capacité à réussir à être épanoui en poste.
Ça passe par quoi? Par toute une batterie de tests sous des formes diverses et variées. Bah, racontez-nous ça un peu, David, c'est intéressant. Comment ça marche?
Exactement ça. Absolument. On a créé donc une solution, ce qu'on appelle d'assessment. Donc, ce sont des questionnaires. Donc, on a trois questionnaires qui font entre 5 et 10 minutes chacun et qui vont permettre, eh bien, aux candidats de se décrire, de décrire justement, bah, quel est son mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'il met en mouvement. On va pouvoir également explorer la manière dont il va résoudre les problèmes complexes ou encore sa capacité à apprendre. Et à partir du moment où on a le profil d'un ou plusieurs candidats, eh bien, on va pouvoir le rapprocher par rapport au profil de compétences qui est attendu par l'entreprise. Et donc, l'intérêt, bien évidemment, c'est que ça va permettre d'élargir le sourcing, c'est-à-dire le pool de candidats potentiels de manière assez extraordinaire, parce que comme on ne s'intéresse plus aux écoles, aux diplômes ou aux expériences précédentes, c'est une façon de redonner sa chance à tout un chacun, tout simplement.
Ah oui, donc c'est plus qu'un simple test de QI ou de personnalité, ça va beaucoup plus loin. Si je vous demandais un exemple, quelques exemples des questions ou des problématiques que vous posez aux candidats, qui sont les plus révélatrices de quelque chose, d'un potentiel finalement, David, dites-nous un petit peu.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre tout d'abord, c'est que ce ne sont pas des tests à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Oui.
Par exemple, typiquement, on va poser des questions, je sais, deux propositions, deux phrases qui sont proposées à la personne. Par exemple, je fais facilement le premier pas pour aller vers les autres. À côté, en dessous, on va mettre, Je contrôle facilement mes émotions.
Ah oui, mais on répond ce qu'on veut derrière tout ça, David. On répond ce qu'on veut dans ces cas-là.
Alors, on répond. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Alors, on répond ce qu'on veut. Mais alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que aujourd'hui, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, donc, ces outils ont énormément évolué et on va enregistrer non pas seulement la réponse que la personne va apporter à chacune des questions, mais également, on va enregistrer toute une série de paramètres qui nous permet, eh bien, de valider le degré de spontanéité, par exemple, de la personne. Et ça nous permet comme ça de savoir est-ce que la personne a répondu de manière conforme à qui elle est, tout simplement, ou peut-être est-ce qu'elle a cherché à orienter ses résultats dans un sens ou dans un autre, et dans lequel des cas, on a des algorithmes qui permettent de recadrer un petit peu les résultats de manière à faire les prédictions qui soient les plus justes possibles, oui, dans l'intérêt de l'entreprise, mais également dans l'intérêt de la personne qui candidate. Parce que se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas en vue d'obtenir un job, c'est jamais une bonne solution.
C'est toute l'histoire du recrutement, voilà, évidemment. On est souvent confronté à ces cas-là. Donc, vous vendez des talents aux entreprises. Alors, tout type d'entreprise, PME, grand groupe, comment ça se passe, David, aujourd'hui?
Alors, en effet, nous on ne vend pas les talents directement. Oui. Nous, ce qu'on vend, c'est la solution qui permet
d'évaluer
ces talents.
C'est la solution qui permet ça, voilà.
Mais comme vous l'avez très bien précisé, donc, parmi nos clients, on a aussi bien des petites entreprises, des PME, mais aussi un nombre vraiment significatif de grands comptes. D'ailleurs, c'est plutôt notre cœur de cible. Et on travaille aussi avec un nombre très important de cabinets de conseil en recrutement, on en a plus de 400 avec lesquels on travaille, qui utilisent notre solution dans le cadre de leurs propres prestations.
Bien, vous êtes né en 2002, dites donc, vous êtes pas tout, vous avez 20 ans quand même, hein, mine de rien.
Que... C'est ça, 20 ans, absolument.
Comment vous faisiez il y a 20 ans pour déceler les talents, comment ça se faisait à l'époque?
Il faut bien se dire qu'à l'époque, si vous voulez, c'était complètement novateur. Aujourd'hui, quand on parle de soft skills, quand on parle de recruter les personnes sur leurs talents, sur leur potentiel, ça coule presque de source, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à l'époque, on était beaucoup plus sur les diplômes, les expériences. Donc, il y a eu un petit travail d'évangélisation à faire.
Oui. Bien, vous êtes donc né en 2002, vous comptez 107 salariés, vous recrutez 25 personnes. En une grosse minute, dites-nous quels sont les profils que vous recherchez, David?
Alors, parmi les profils qu'on va recruter, comme vous l'avez dit, c'est 25 personnes à minima qu'on va recruter d'ici la fin de l'année. Donc, on a des développeurs, donc dans la tech, tout simplement, des personnes qui vont coder. On a aussi des business développeurs, donc business développeurs dont la mission va être de prospecter de nouveaux clients pour leur présenter notre solution. Mais on a aussi des onboarding spécialistes dont le rôle est d'accompagner la montée en compétences de nos utilisateurs sur la solution. Des customer project managers qui vont suivre les projets de nos clients au long cours pour s'assurer que les clients tirent bien toute la valeur pour laquelle ils ont signé au moment de devenir client. Et enfin, des Customer Success Managers dont la mission est un petit peu plus large, dans le sens où ils ont vocation à devenir de véritables expertes de notre solution, de manière à pouvoir répondre à n'importe quelle question que nos clients se poseraient concernant leur utilisation de la SaaS.
Et voilà pour l'ensemble des profils que vous recherchez, 25 postes à pourvoir, 100% télétravail, et forcément on peut travailler pour vous depuis le monde entier, évidemment, David, on est d'accord.
Absolument, à fait. On a plus de la moitié de nos collaborateurs qui sont en dehors de Paris, donc qui sont à Strasbourg, Nice, Marseille, Nantes, ou Rome, l'Angleterre, enfin peu importe.
Et tout ça est enregistré. Bien, pour recruter, pour postuler chez vous, on va sur Welcome to Jungle, sur The Muse, sur LinkedIn, sur Indeed, ou alors on écrit à Aurélie Lamy Ducasse, dont l'adresse internet s'affiche, mais vous retrouverez tout ça sur nos supports, bien sûr, d'ici quelques minutes, à Lamy, tout attaché, @assessfirst.com. Tout ça est enregistré. Merci beaucoup, David. Merci d'avoir été avec nous. Quelques minutes, David Bernard, directeur général d'Assess First avec nous sur BFM Business. Merci David, à très vite, avec plaisir. Midi 51, je vous redonne les modalités pour nous écrire, nous faire des offres d'embauche, #BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @BFMBusiness.fr, l'adresse internet, le site BFMBusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, c'est totalement gratuit. Midi 51, on continue de recruter tout de suite avec Pierre Lassara qui est avec nous ici en plateau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue, cofondateur, CEO d'Apital. Pareil, si on fait le pitch en quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait chez Apital, Pierre? Racontez-nous ça.
Alors, je suis un ancien aidant, c'est-à-dire que j'ai connu l'hospitalisation d'un proche il y a près d'une quinzaine d'années.
Comme des millions de personnes dont on ne parle pas suffisamment aujourd'hui.
Exactement, il y a un Français sur 6 qui passe à l'hôpital chaque année. Et donc c'est une parenthèse, une rupture dans le quotidien des gens, et que, en tout cas à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à vivre.
Oui.
L'objectif qu'on s'est donné avec Romain quand on a cofondé Apital en 2013, c'est de pouvoir simplifier la vie des patients, fluidifier et digitaliser leur parcours administratif, mais aussi prendre soin de ceux qui prennent soin de nous, à savoir les soignants, Et enfin, parce qu'il ne faut pas les oublier, et de plus en plus, prendre soin des personnes âgées en maison de retraite,
oui,
médicalisées. Comment est-ce qu'on prend soin de toutes ces personnes-là? Nous, on a une spécificité d'être à la fois éditeur de solutions SaaS, qu'on édite des préadmission en ligne pour pouvoir s'enregistrer depuis son canapé, s'inscrire à l'hôpital, gérer ses droits de sécurité de mutuelle, faire une demande de chambre individuelle, mais aussi accéder à des plateformes de coordination, c'est-à-dire une offre de services de type conciergerie, avec pas loin de 100 000 références et services qui nous sont proposés pour simplifier notre hospitalisation, notre quotidien quand on est un soignant. Et on a aussi la spécificité d'intervenir au-delà de cette casquette d'éditeur en tant que prestataire de services. Et aujourd'hui, on a 300 concierges qui, à distance et dans les hôpitaux, rendent service aux gens qui sont hospitalisés ou qui travaillent quotidiennement dans les hôpitaux.
Transformer l'expérience des patients des hôpitaux et des résidents d'EHPAD, c'est ça véritablement.
Voilà. Exactement.
Soulager un petit peu les personnels, évidemment, qui en ont grandement besoin. Effectivement,
surtout par les temps qui courent.
Surtout par les temps qui courent, évidemment. L'entreprise est née en 2013. Vous employez 380 personnes.
C'est ça.
Et vous cherchez une centaine de personnes supplémentaires. Quels sont les profils que vous recherchez, Pierre, aujourd'hui? Dites-nous.
Alors oui, vous l'avez dit, on est 380. L'objectif de la société, c'est de tripler de taille à l'horizon 2025. Pour ce faire, on a besoin de talents. Sur les deux prochaines années, on va recruter 200 personnes. Une centaine de postes sont déjà ouverts. Et on cherche en priorité des responsables régionaux sur la dimension service, quatre coins de la France. Mais on cherche aussi au siège des développeurs tech, des ce qu'on appelle Customer Success Manager, et aussi des commerciaux en nombre pour pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise.
C'est ça,
et de pouvoir expliquer aux dirigeants des établissements de santé les vertus de notre offre, de notre service, et de pouvoir les accompagner dans la prise en main de cette solution.
Voilà, centaines de personnes que vous recherchez. Télétravail possible partout
en France? Le télétravail est possible. Alors pas 5 jours par semaine, mais au moins 3 jours par semaine.
D'accord.
Et on emploie aujourd'hui des gens qui sont basés dans la France entière. Donc on est déjà projeté sur le télétravail.
Oui.
Ce qui fait la spécificité d'Hapital, c'est d'être une entreprise éthique, avec beaucoup de sens dans le quotidien. On sait pourquoi on travaille.
Oui.
Mais pour bien prendre soin des patients et du personnel, on commence par déjà prendre soin de nos personnes à nous,
bien sûr,
de nos collègues. Et donc la bienveillance et l'éthique sont au cœur de nos pratiques et on y met un soin tout particulier.
Vaste sujet, fluidifier le parcours hospitalier, c'est un des défis des prochaines années. On n'a pas le temps, on aurait quelques secondes pour en parler, mais c'est ça l'idée fondamentalement, Pierre. C'est vraiment le gros défi.
C'est un défi des prochaines années, mais surtout le défi actuel.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, on manque de temps médical, on manque de temps soignant, et donc tout ce qui va permettre de concourir à fluidifier le parcours des patients, mais aussi à soulager le personnel hospitalier de tâches qui aujourd'hui sont digitalisables ou externalisables,
bien sûr.
C'est l'enjeu du moment, parce qu'aujourd'hui, le système hospitalier manque cruellement de bras et de ressources pour fonctionner.
C'est le sujet du moment. Effectivement, c'est bien de parler de ces aidants familiaux aussi dont vous avez fait partie et qui feront effectivement des millions en France, mais population à laquelle on commence à s'intéresser, mais vraiment très très doucement, Pierre, il faut le dire quand même, malheureusement.
Tout à fait. Aujourd'hui, nos plateformes, et notamment celle pour les EHPAD, elles se positionnent vraiment comme une plateforme d'aide aux aidants. Et donc, quand on est à distance, à l'autre bout de la planète, ou à l'autre bout de la France, ou même à l'autre bout de la ville, aider quelqu'un qui est hospitalisé, ou qui est en maison de retraite médicalisée, ou même à domicile, c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'aide et d'outils.
C'est un vrai sujet contemporain et d'avenir, évidemment. Bien, tout ça est enregistré. Donc, une centaine de postes. Pour recruter chez vous, on va sur votre site internet, Hapital, H-A-P-Y-T-A-L, tout attaché. Il y a un onglet recrutement sur lequel on peut postuler. Puis, bien sûr, cette interview sera sur nos plateformes, nos contenus d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Pierre Lassara, cofondateur et patron d'Hapital, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui dans 60 000 Business. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, midi 56. On se retrouve dès demain, bien sûr, à midi et demi pour BFM Business avec vous. On parlera égalité professionnelle et pouvoir d'achat, droit du travail, c'est des thèmes dont vous êtes friands. Et puis nous, on se retrouve, bien sûr, dès midi pour 60 000 Business pour dérouler ensemble l'actualité économique. Et puis si vous nous regardez à la télévision, vous voyez le petit QR code, là, vous le flashez et vous arrivez sur la page des replays de 60 000 Business. Dansons ensemble. Midi 56, Nicolas Dose arrive dans un instant. Le replay des experts, on se retrouve demain midi pour nouvelles aventures. Bonne journée, à demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.